Bon, au lendemain de cette belle cuite du Canadien de Montréal, on va rejoindre notre ami Arpin Basso. Arpin, comment ça va?
Ça va bien, les gars, ça va bien.
Hey,
on capote?
Tout le monde capote! Tout le monde capote, Arpin!
Fait, on va commencer en étape pour le match d'hier contre le club C des Leafs. Avant d'aller par étape, c'est quoi ton impression de cette défaite du CH contre l'équipe C des Leafs?
Genre, j'ai pas besoin d'expliquer que il y a différents joueurs qui voient la pré-saison de façon différente. Il y avait plein de joueurs des Leafs hier qui essayaient de faire une impression, qui essayaient de faire l'équipe. Il y en avait chez les Canadiens aussi, mais c'est clair que leurs joueurs de la Ligue nationale ont pas pris ça au sérieux. Ça arrive, c'est pas la fin du monde. Évidemment, la pire nouvelle là-dedans, c'est la nouvelle de David Rambacher, c'est clair. Alors, mais pour moi, c'est Kirby Dach qui a joué. Il est pas blessé. Il avait l'air correct. Pour un premier match, je trouve qu'il était même bon. C'est ça mon impression. T'sais. C'est sûr que Sam Montembeau était pas bon. Je pense que plusieurs des buts qui ont alloué étaient pas des buts avec des failles défensives flagrantes. Il y avait au moins deux ou trois que je pense que Sam y aurait aimé ça les revoir. Alors, c'est un match pré-saison. Tu continues, puis tu regardes dans le prochain. La seule chose, c'est que quand Martin Saint-Louis arrête pas de dire qu'il y a un sentiment d'urgence, que ça commence maintenant, que tu peux pas dire ça pendant une semaine puis avoir un match comme ça. C'est correct de perdre, mais de perdre de cette façon-là, ça paraît un peu mal quand ton coach n'arrête pas de dire à quel point c'est sérieux.
Oui, devant tes partisans en plus, avec ton top 6, avec certains défenseurs. Bref, on parlera de Rinebacker là, avec la blessure. On a donné des détails avant la pause également pour les 4 semaines d'absence. Mais avant de se rendre à Rinebacker, allons-y, on a un dossier à la fois. Kirby Dach, c'était son premier match au centre là, du camp, bien sûr. On se disait hier, c'est drôle, je disais, s'il en met 3 dedans, les gens vont dire c'est le club des Leafs. Puis s'il paraît mal, les gens vont dire ben c'était le club des Leafs, puis il paraissait mal. Comment t'as trouvé son premier match? Puis surtout, à quel point tu penses qu'il va être prêt et qui est prêt à être le deuxième centre de ce club-là?
Ça, c'est deux questions complètement différentes. Ouais. C'est hier, je trouvais que, étant donné que c'était son premier match depuis février, je trouve qu'il bougeait bien sur la patinoire. Ouais. Il était mobile, il était impliqué. Je trouvais que c'était positif pour Kirby Dach, honnêtement, mais il faut garder ça, c'est relatif, tu sais. Est-ce qu'il est prêt à jouer un match de la saison régulière? Non. Mais il paraissait beaucoup mieux hier soir qu'il paraissait à pareille date l'année passée. T'sais, l'année passée, il est arrivé au camp d'entraînement, il était visiblement lent. Il était pas visiblement lent hier soir, je trouve qu'il bougeait très bien. Alors, en termes de conditionnement, tu sais, on a beaucoup parlé de son été, à quel point c'est différent. Lui-même, il a avoué que l'été passé, il a pas pris ça avec autant de sérieux qui était nécessaire. Puis même Caden Gooley, qui a passé son été à s'entraîner avec lui. La première chose qu'il a dit concernant l'été de Dach, il a dit, je pense qu'il a compris à quel point c'est difficile et que c'est pas facile. Alors, ça disait long sur l'été passé de Kirby Dach. Alors, si Kirby Dach prend ça au sérieux, s'il est capable de rester en santé, ce qui demeure une grande question, puis il s'applique à démontrer à quel point ce gars-là, il a un potentiel énorme. J'ai beaucoup d'espoir que Kirby Dach peut devenir un joueur très important pour le Canadien. Là, est-ce que c'est au centre?
Ouais.
On verra bien, mais moi, je trouve que le gars, il joue mieux quand il est au milieu de la glace. Alors, évidemment, il y a le problème des mises en jeu qui va demeurer un problème jusqu'à temps qui fait en sorte que c'est plus un problème. Mais en termes de jouer la position de centre, jouer du hockey en milieu de la glace, c'est un gars qui est bien fait pour ça. Alors, on verra s'il y a le gars qui peut régler un problème pour les Canadiens. Mais je trouvais que pour le premier match, c'était quand même assez encourageant de sa part.
D'abord, si tu dis ça, est-ce que tu peux dire que t'es convaincu qu'au premier match de l'année, il va être prêt à être le deuxième centre du club?
Non. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que pour un premier match, en 5 mois, il était correct, il était pas pire.
Mais tu fais quoi, mettons, là? Si ça marche pas, jusqu'à quel point, en fait, si on entend beaucoup Martin Saint-Louis dire oh, on va y aller avec le plan, puis je comprends, il y a besoin de répétition, besoin de ci, besoin de ça.
Ouais.
La patience va aller jusqu'à où, d'après toi, chez le Canadien de Montréal avec
ben,
Doc?
Je pense que la patience va être beaucoup plus courte avec Kirby Doc que ça l'était l'année passée. Okay. L'année passée, tout le monde parlait. Jeff Corton en a parlé au tournoi de golf. Kirby Doc lui-même, il parlait. Martin parlait tout le temps. Ça va prendre du temps, c'est une blessure difficile, c'est une chirurgie qui était difficile. Et il demandait à tout le monde de démontrer de la patience envers Kirby Doc. Là, on peut comprendre que l'année passée, il parlait pas du blessure de Kirby Doc, il parlait de son conditionnement physique. Il était pas satisfait avec son shape en arrivant au camp. Là, c'est différent. Puis j'ai demandé hier matin à Martin... On vous entend pas dire que on a besoin d'être patient avec Kirby Doc. Est-ce que ça veut dire qu'effectivement, t'as moins de patience? Sans dire qu'il y avait moins de patience, il a dit que ses attentes, c'est que Kirby Doc va être prêt à rouler tout de suite, ouais, dès le premier match. Alors, si c'est ça les attentes, ça veut dire que s'il répond pas à ces attentes-là, ça veut dire qu'il va falloir faire des ajustements. Je pense pas qu'il va avoir autant de patience. Le seul problème, c'est que si Kirby Doc fonctionne pas, tu mets Alex Newhook là, qu'est-ce qu'il fait? T'as pas comme une tonne d'alternatives ou tonne de... T'as pas un plan B, C, D dans son cas, là. C'est, si Kirby Doc marche pas, ça devient un gros trou. Est-ce que ça va être Alex Newhook? Est-ce que ça va être comme, je sais pas, Owen Beck, Oliver Kapanen, tu sais? Il y a aucune option qui est...
Il y a un effet domino.
Il y a pas une tonne d'options après non. lui, là. Alors, c'est ça, il faut que ça fonctionne de quelque sorte, et sinon... Ben, ça va être un problème. Au cours de la saison, je pense qu'on va voir juste une tonne de gars qui vont faire rotation. Puis si un de ces gars-là pogne, ben, tant mieux. Mais il n'y a pas une solution claire si ça marche pas pour Kirby Doc.
Là, on parle de Doc, mais pas la Laine, les boys aussi, hein. J'écoute la pausée parce que Laine, bon, il l'a dit hier aussi, là, tu sais, ses chums étaient endormis, lui y compris. Comment tu trouves la meilleure version de Patrick Laine jusqu'à présent?
Ben, est-ce que c'est vraiment la meilleure version de Patrick Laine? Si c'est le cas,
c'est inquiétant.
C'est inquiétant, oui. Mais je suis pas convaincu que c'est la meilleure version de lui non plus. Là, on verra. Il a l'air. Honnêtement, ça va avoir l'air un peu ridicule, là, mais il y avait quelques moments hier où Laine avait perdu la rondelle. Puis il a patiné fort pour aller le chercher. Puis ça a l'air, ça devrait être la base, ça devrait être le minimum dans la Ligue nationale, mais dans son cas, c'est pas le minimum d'habitude. D'habitude, il perd la rondelle, puis il patine lentement vers sa zone, mais comme il est un peu, il boude, il est un peu en maudit contre lui-même. Le problème avec lui, c'est le nombre de fois qu'il perd la rondelle. Tu sais, c'est comme réception de passe. C'est un gars, je trouve ça très patriote. C'est un gars qui aime pas recevoir des passes du côté revers. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il monte son bâton, puis il reçoit ces passes-là avec comme le bout de son bâton. Alors, plus souvent que non, ça frappe le bout de son bâton, puis ça part ailleurs. Alors, c'est comme... C'est pas un gars qui est très fiable avec la rondelle. C'est sûr qu'il peut le mettre dedans quand tu le mets sur sa palette, comme on l'a vu. Ouais. Et comme on l'a vu tant de fois l'année passée. Mais en termes de position, Martin a parlé beaucoup hier à quel point il veut être une équipe qui est en position de rondelle, qui garde possession de la rondelle. Puis Patrick Laine, c'est pas ça. Ses décisions avec les rondelles sont souvent douteuses. Et il va falloir qu'il règle ça parce que, oui, effectivement, ça aussi, ça serait un problème si ça continue. Mais encore une fois, je veux pas juger ce que Patrick Laine va faire en saison régulière basé sur ce qui s'est passé hier soir. Là, c'est, on va prendre un peu de recul là, puis dire, OK, on va leur donner une chance. Une fois que la saison régulière commence, là, ça va être justifiable et juste de juger ce qu'il fait, parce que là, ça compte, et les Canadiens ont dit, on peut pas se permettre d'avoir un début de saison comme l'année passée. Alors, je vais être très curieux de voir, particulièrement parce que si Laine fonctionne pas sur un deuxième trio, qu'est-ce que tu fais avec lui?
Hey boy. Ouais.
Tu peux pas le mettre sur un 4 ou un 3, tu peux pas le mettre dans des missions défensives, t'as pas grand-chose à faire.
On dit ça l'année passée, les gars.
Moi, Harpen, je m'en débarrasserai, Harpen, moi, parce qu'il va scraper des middles.
Comment? Qu'est-ce que tu vas faire?
Narpin, je la fais pas jouer. Demidov, il va le scraper. On a des gars qui vont les faire, les 20 buts, les 30 buts en avantage numérique. Caulfield va les faire, les buts postés à sa place. L'avantage numérique dans les séries, t'as vu qu'au Washington, 4 en 8 quand la N était pas là.
Tu le mets dans les estrades, puis tu le gardes là?
Non, mais il est pas indispensable en avantage numérique. T'as vu, dans les séries, qu'est-ce que les gars ont fait sans lui?
Je suis d'accord qu'il est pas indispensable, mais qu'est-ce que tu fais avec?
Tu t'en débarrasses.
T'as pris la décision de le garder. C'est ça.
Oui, mais c'est néfaste. Demidov, son développement.
C'est pas une décision de la garder. C'est pas comme il y avait une vingtaine d'équipes qui voulaient le prendre. Là. Ils sont pas nés avec.
Exact.
On va se débarrasser de lui parce qu'il n'y a pas d'équipe aspirant à la Coupe ou une équipe qui espère avoir du succès cette saison qui va dire oui, on prend Patrick
Kane. Un peu de la transaction, ça, c'était de croire au Père Noël. Je suis désolé. Là, si tu voulais t'en débarrasser, il fallait que tu le rachètes. Puis que tu te dises, regarde, j'ai un choix de deux.
Il fallait que tu le rachètes, oui, exact.
C'était la seule possibilité.
Alors, ils ont pris la décision de ne pas le faire et c'est bien correct, mais si tu le mets dans les estrades, ça devient une distraction quand même assez importante. Puis alors, il faut faire en sorte que ça fonctionne. Puis Laine, je vais lui donner la chance. C'est comme honnêtement, j'étais convaincu que l'année passée, il paraissait très mal, mais il y avait toutes les circonstances qui étaient contre lui. Alors là, dans son cas, dans le cas de Doc, il n'y a pas d'excuse. Laine a passé tout son été à Montréal, il était engagé, il a fait l'engagement de rester ici, de s'entraîner tout l'été. Il a mis le travail dedans, alors il n'y a pas d'excuse si ça ne fonctionne pas. Doc, même affaire. Alors, c'est bien qu'ils ont fait ça, mais là, tu as enlevé les excuses des deux gars. Alors là, on va voir la vraie version. Hier soir, c'est pas la vraie version. C'est pas nécessairement la meilleure version de l'année. Une fois que la saison commence, si c'est le même chose,
on veut voir mieux.
Ouais. Là, on peut en parler.
Ouais. Les gars, le problème, je pense, c'est qu'il est allé dire qu'on allait voir la meilleure version. S'il n'avait pas dit ça, les gens n'auraient pas eu autant d'attente non plus. Malheureusement, c'était peut-être un peu malhabile de sa part. Dans un
saison.
Marché comme Montréal, c'est ça.
Harpen, avec cette autre blessure pour Ryan Backer, qui va le mettre à l'écart pendant plus d'un mois, on parle que ce gars-là est vraiment malchanceux. Est-ce que tu commences à être inquiet pour son développement, étant donné qu'il manque autant de hockey dû aux blessures?
Ben oui, c'est clair. Écoute, depuis le moment qu'il a été repêché par cette équipe-là, c'est une chose après une autre. Il retourne en Suisse, il se blesse, il y a comme trois entraîneurs. L'année passée, match pré-saison contre les Leafs, il se blesse. Tu sais, c'est honnêtement, c'est une chose après une autre. Puis c'est inquiétant, c'est sûr. C'est tout ce que tout le monde dit dans son cas, c'est qu'il a besoin de millage. Et il continue de se faire blesser. C'est malchanceux, oui, mais tu sais, t'es inquiet pour son développement, mais c'est pas parce que c'est pas idéal. Mais 4 semaines, c'est pas la fin du monde non plus. Alors, c'est définitivement, c'est plate pour lui. Il a pas eu un stretch de comme 3-4 mois de suite où il est capable de jouer au hockey depuis son repêchage. Alors, c'est vraiment, c'est décevant, inquiétant. Je suis pas prêt à dire à ce point-là parce que même dans 4 semaines, il aurait pas manqué tant de matchs que ça, mais c'est vraiment sa préparation, c'est le camp d'entraînement. Tu sais, le camp du Rocket ouvre la semaine prochaine, le 30. Ça aurait été le fun qu'il puisse participer à tout ce camp-là ou autant de ce camp-là qu'il aurait fait quand le Canadien l'a renvoyé là. Mais je suis pas inquiet encore, mais ça commence à devenir un peu inquiétant, oui. C'est des années importantes pour le développement de jeunes joueurs. Puis c'est un gars qui fait partie du plan du Canadien de devenir une équipe qui peut vraiment prétendre à gagner la Coupe Stanley. Puis ça va juste être une chose après une autre, un obstacle après un autre pour ce gars-là. Puis on verra du côté mental aussi, ça doit être très frustrant pour lui.
L'accumulation dans son cas, on verra si l'accumulation aura un impact sur son développement, parce que tu me dis, tu veux qu'il joue le maximum de hockey cette année, puis encore une fois, il y a quelque chose qui tombe. Un match difficile pour la majorité des joueurs hein, pour le Canadien de Montréal, mais on regarde bien sûr l'audition, là, tu sais, puis là, on parlait de Joshua Roy et tout le reste. Là, ce qui est en train de se dessiner, c'est que Kapanen jouerait avec Newhook et Bolduc pour le match de samedi. Là, on s'entend qu'il n'y a personne qui a gagné de points. Il y en a qui en ont perdu. Kapanen, c'est comme si la place était à lui de nous montrer que samedi, il a le devant sur les autres.
Ben pas nécessairement. Tu regardes, Beck a eu du temps
Beck
sur
aussi,
ce trio-là.
Ouais.
Roy a eu du temps sur ce trio-là. Puis là, c'est le tour de Kapanen. C'est clair que ces trois gars-là sont les trois principaux candidats pour jouer dans ce spot-là. Alors, c'est normal que tout le monde aillent en répétition avec ce trio-là pour voir ce qu'ils peuvent faire. À mon avis, puis le seul gars que moi je trouve est un candidat qui est quand même assez possible, ça serait Rohrer. Et on verra si Rohrer va avoir une opportunité de jouer avec ces gars-là pour voir ce qu'il peut faire avec eux. Mais c'est clair que c'est une compétition ouverte. Là. Ça, c'est ça. Il y a aucun. Je pense pas qu'il y ait un joueur où c'était préconçu que ce joueur-là, on aimerait ça que ce joueur-là prenne ce poste-là. On aurait pu penser ça en voyant que Owen Beck a commencé le camp dans ce spot-là, mais la façon que ça s'est évolué depuis ce temps-là, c'est clair que chaque gars a eu un temps plus ou moins égal pour faire ses preuves avec ces deux gars-là. Alors, on verra ce que Kapanen va être capable de faire parce que ça n'a pas été très concluant quand il a joué avec Laine et Demidov. Mais c'est sûr que c'est un gars qui est fiable. Tu sais, le gars, l'atout principal de Kapanen, c'est son sens de hockey, son positionnement sur la glace, mais c'est pas un gars qui a une dimension de son jeu qui saute aux yeux. Tu sais, c'est pas un gars, tu sais, il a un bon tir, mais c'est pas excellent. Il a un bon patin, mais c'est pas excellent. Il fait rien d'une façon vraiment excellente. Il n'y a pas une chose dans Oliver Kapanen que vous dire ça, c'est quelque chose que lui, il fait bien. Ce qu'il fait bien, c'est penser le jeu et se positionner dans les bons endroits, ce qui est quand même, c'est une habileté, ça. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça aussi bien que lui. Mais on verra ce que ça donne. Mais je suis curieux de voir si ses atouts offensifs vont être capables de s'exprimer sur ce trio-là, parce qu'à date, on l'a pas vraiment vu de lui depuis le début de l'année passée, en fait.
Harpin, merci beaucoup. On te souhaite un bon week-end, bon match. En te laissant, selon Elliot Friedman, là, on en saura plus dans les 24-48 heures, mais écoutez bien celle-là, les gars. Les Panthers disent qu'il y a une possibilité, ou du moins ce qu'ils entendent, que Barkov soit parti pour la saison complète.
Ouais.
Suite à cette blessure d'hier où il s'est fait, bien sûr, vous avez vu les images, là, c'était très inquiétant, là, il a aidé deux personnes. Alors, il y aurait possibilité que Barkov ne joue pas de la saison pour les Panthers, eux qui seront déjà privés de Matthew Tkachuk pour la division atlantique. En tout cas, ça ouvrirait une porte, ça, c'est sûr et certain. Harpin, on surveille ça au cours du week-end, on s'en reparle très bientôt. Bon week-end, Harpin.
Merci, Harpin.
OK, merci les gars. Salut.